Plus. C'est gentil, Natacha. Alors, prions pour débuter. Seigneur, merci encore une fois pour cette occasion que tu nous donnes, qui réjouit notre cœur matin après matin de pouvoir s'assembler et passer un court moment dans ta parole avec nos frères et nos sœurs. C'est un moment édifiant, c'est un moment fortifiant, c'est un moment à travers lesquels, ou à travers lequel plutôt, on se défait de toute préoccupation, de toute autre occupation, et on se concentre et on se consacre à toi. Alors ce matin, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, dis-nous ce que tu as préparé pour nous toute éternité. Répands sur nous ta grâce. Répands sur nous, Seigneur, cette onction qui accompagne ta parole. Et que celle-ci, Seigneur, puisse trouver en nous un terrain qui a été bien préparé, dont les mauvaises herbes ont été supprimées, dont la terre a été travaillée, afin de recevoir cette semence et que celle-ci puisse se poser et s'enraciner profondément en chacun d'entre nous et qu'il puisse, Seigneur, éventuellement en découler des fruits qui te seront propices jusque dans l'éternité. Merci, Seigneur, de prendre soin de ma sœur, de prendre soin de mon frère. Merci d'être avec nous. Prends contrôle de tout cet instant, que tout esprit de distraction soit défait, que toute occasion de distraction soit rendu caduque, mais qu'on puisse vraiment, Seigneur, avoir nos pensées rendues captives à toi. Merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta provision encore aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à cette bénédiction matinale du jeudi 3 juin 2021. Je lis pour vous le passage du jour dans 1 Corinthiens au chapitre 3, du verset 9 au verset 15. Et le verset qui servait de méditation cette semaine, c'est le verset 12. Donc à la fin de la lecture, je reprendrai ce verset 12. Le verset 9 nous dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors que je relis pour vous le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et la partie que nous étudions aujourd'hui, l'œuvre de chacun sera manifestée. Sans vouloir faire un trop grand rappel de ce qu'on a vu à travers cette semaine, puisque vous y avez toujours accès à travers notre page Facebook. Pour ceux qui étaient absents, on vous invite fortement à visionner les enseignements des jours précédents. Je pense que c'était instructif et que le Seigneur s'en sert aussi pour monter l'Église qu'il désire monter, bâtir l'Église qu'il désire bâtir et nous permettre à tous et chacun d'être de meilleurs ouvriers, mieux équipés, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, comme la parole de Dieu nous le dit. À travers les 2 dernières journées, on a vu des matériaux avec lesquels on peut bâtir. Et là, j'irai très simplement. L'or était ce symbole d'une quête constante de qualité supérieure dans notre vie et dans notre vie de service. L'argent, c'était cette quête d'amélioration, de progression par rapport à mon service et par rapport à ma vie. Les pierres qui représentaient ces colonnes de granit notamment, ou de marbre, c'était cette quête de pérennité et de solidité dans notre service, qu'on puisse effectivement bâtir, mais bâtir solidement et bâtir pour durer. Hier, on a vu trois autres ingrédients ou matériaux. Le bois, le foin et le chaume. Le bois, malheureusement, ce qu'on offre parfois à Dieu qui nous coûte peu cher. On regarde le coût du service et on essaie de s'en sortir à bon marché et d'offrir malheureusement à Dieu quelque chose qui est peu précieux, peu enviable. Le foin, c'est de l'herbe qu'on destine uniquement aux animaux. Alors parfois, on donne à Dieu des choses que nous n'utilisons pas pour nous. On dit à Dieu, tu peux tout prendre, puisque de toute manière, je ne l'utilise pas. Encore là, c'est un cadeau un peu tristounet qu'on offrirait à Dieu et un service assurément en dessous de la qualité qu'il mériterait. Et enfin, le chaume, c'était cette tige qui restait notamment au niveau du blé lorsque le blé avait été moissonné. La partie importante, c'était la partie au haut de la tige avec les petits grains qui vont servir de céréales, qui vont éventuellement servir de farine. Mais la tige qui soutenait donc ces grappes de céréales, elle est totalement inutile. Et c'est pour nous, c'était parfois ce qu'on offre à Dieu quand on lui donne tout ce qui reste, mais qui ne nous sert à rien. Ou tout ce qui reste après avoir nous-mêmes savouré et profité de tout ce qui nous était nécessaire. Et aujourd'hui, on continue dans la même veine où on nous dit « L'œuvre de chacun sera manifestée. » L'œuvre de chacun sera manifestée. Trois termes intéressants ce matin. Œuvre, chacun, manifester. Œuvre, c'est le terme ergon qu'on a déjà étudié à quelques reprises. Donc, œuvre, ergon, E-R-G-O-N, E-R-G-O-N, et puis je grossis un peu mes caractères. Donc, E-R-G-O-N, et de ce terme-là, on va avoir des termes en français qui ont été repris par la suite, comme ergonomique. Et ergonomique veut dire donc qui est propice au travail ou qui est adapté à une tâche et à celui qui exécute la tâche. Vous savez, lorsqu'on a un bureau ergonomique, c'est que ce bureau nous permet de travailler de façon optimale, sans se blesser, en ayant le rendement le plus effectif, le plus productif. Donc, qu'un aménagement au niveau de la structure du bureau, au niveau de l'agencement, des choses aient été faites pour qu'on puisse travailler dans une meilleure posture et dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est le terme œuvre, le terme chacun, c'est le terme grec ekatos, et plutôt ekastos, donc H-E-K-A-S-T-O-S, H-E-K-A-S-T-O-S. On reviendra sur les synonymes de chacun de ces mots plus tard. Je les mentionne simplement pour ceux qui prennent des notes. Et le terme manifester en français, phaneros, P-H-A-N-E-R-O-S, je répète, manifester, phaneros, P-H-A-N-E-R-O-S, et des termes qui découlent de phaneros, vous aurez des termes comme épiphanie, donc épiphaneros, ou théophanie, théophaneros, épiphanie qui veut dire la manifestation du Messie aux mages. Vous savez, cette occasion, les trois mages d'Orient, à la naissance de Jésus, vont voyager depuis leur contrée, vont venir adorer Jésus à Bethléem. Donc, même l'Église traditionnelle a eu cette fête qu'ils célèbrent encore jusqu'à aujourd'hui, qu'ils appellent l'Épiphanie. Donc c'est cette occasion où le Messie, l'enfant Jésus, va être manifesté, va être présenté au roi mage. De surcroît à cela, on a ce qu'on appelle aussi la théophanie. Théo veut dire Dieu, donc la manifestation de Dieu. À chaque fois où le Seigneur s'est présenté, notamment lorsque l'ange de l'Éternel et puis deux anges vont se présenter à Abraham lorsqu'ils vont aller détruire Sodome et Gomorre. La Bible nous dit donc qu'il y a un ange, l'ange de l'Éternel, qui est en fait Dieu lui-même, qui se présente à Abraham et puis il va dire même à Abraham, est-ce que pourrais-je cacher à mon aîné Abraham ce que je m'apprête à faire? Et donc c'est la manifestation de Dieu, donc c'est la manifestation visuelle, corporelle, l'image de Dieu qui se manifeste donc à quelqu'un. Donc revenons avec Ergon. Ergon, œuvre, nous parle donc de travail, d'occupation, d'emploi, d'entreprise et de labeur. J'ai donc divisé cela en trois parties. Premièrement, on parle des actions et des œuvres distinctes. Lorsqu'on va parler de l'œuvre de chacun sera manifestée, ça veut donc dire que ton travail et mon travail, de façon très ponctuelle, est pris en note par Dieu. Lorsqu'on va parler de l'ergon, on va parler non seulement des tâches qui sont ponctuelles. Aujourd'hui, j'ai préparé, on va dire, le setting pour vous parler. Donc là, c'est une œuvre ponctuelle, bien précise. J'ai préparé l'ordinateur, la caméra, le projecteur, le micro, je l'ai arrangé. Par contre, ça, c'est des choses ponctuelles, factuelles. Mais tout cela correspond à une autre œuvre qui sont les bénédictions matinales. Les bénédictions matinales, c'est quelque chose qui dure davantage sur le temps. Donc, lorsqu'on parle de l'œuvre, on parle non seulement de la ponctualité de chacune des actions qui va être manifestée, mais on parle aussi du travail, de l'œuvre, de l'ouvrage, de l'occupation et de l'emploi. Certains pensent qu'ils peuvent s'en défiler tout simplement en ayant par-ci par-là, de façon parcimonieuse, une bonne action quelque part, puis deux, trois semaines après, une autre bonne action. Dieu prend en compte toutes ces bonnes actions, Dieu prend en compte la ponctualité de chacune de ces actions. Mais Dieu prend aussi en compte l'ensemble de l'œuvre. Et je vous dirais que lorsqu'on parle de l'œuvre ici, c'est au singulier et non pas au pluriel. Si c'était au pluriel, on s'adresserait à nous davantage pour chacune des œuvres distinctes qu'on peut faire. Mais ici, on parle de l'œuvre plutôt dans le sens notre occupation générale. Certains sont des cuisiniers. Donc, le cuisinier peut peut-être être peintre aussi. Il peut peut-être faire la peinture chez lui, repeindre les murs et tout ça. Mais foncièrement, son activité, c'est pas d'être peintre. Un peintre, son activité, c'est d'être cuisinier. Donc, non seulement ici, on parle de l'œuvre ponctuelle, d'une petite chose ponctuelle, mais on parle aussi que Dieu prend en compte, que Dieu surveille l'ensemble de notre œuvre. N'oublions pas que nous sommes des serviteurs au service d'un maître. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des hommes, des femmes qui ont été sauvés pour servir. Ça fait partie de nos enseignements réguliers. Encore la semaine dernière, on parlait de servir Dieu, d'être engagé dans ce service. Donc effectivement, on va parler de l'œuvre générale. Le bilan dans lequel tu vas être amené face à Dieu lorsque tu vas le rencontrer, ça va être non seulement le bilan de chacune des ponctualités des œuvres que tu as exécutées, mais de surcroît à cela, il te faudra aussi répondre à Dieu si l'ensemble de ton œuvre, l'ensemble de ton travail correspondait à ce que Dieu attendait de toi. Mais de surcroît à ça, lorsqu'on parle de Ergon aussi, on va y aller non seulement dans la ponctualité de l'œuvre, non seulement dans la généralité de l'œuvre, dans l'ensemble de l'œuvre, mais on va parler aussi du labeur et des efforts. Et je trouvais important ce matin d'amener ce troisième élément parce que c'est un élément qu'on repousse régulièrement. L'œuvre de Dieu, et je le dis en toute humilité, en toute sincérité, travailler pour Dieu est la plus belle tâche qui est réservée à un homme. Pensez un peu, lorsqu'on travaille pour Dieu, on est en train de faire progresser son royaume, on est en train de faire avancer son royaume, on est en train de travailler à l'œuvre pour laquelle Jésus a été donné et pour laquelle Jésus est mort, pour l'Église. Donc lorsqu'on travaille pour Dieu, on travaille pour l'avancement de son œuvre. Il n'y a pas une mission plus grande que celle-ci. Quand je parle de travailler pour Dieu, je ne parle pas simplement d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être apôtre, d'être prophète ou quoi que ce soit. Je parle d'accomplir l'œuvre pour laquelle nous avons été créés et l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Et chacun d'entre nous, nous avons cette œuvre à laquelle nous sommes destinés. Que vous soyez dans le ministère à temps plein, là ça voudrait dire que Dieu aurait pris la vie de cet homme et il l'aurait donné à l'Église. C'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens notamment ou dans Galates. On nous dit que Dieu a fait des dons à l'Église, que Dieu a fait des dons à prenant des hommes et qu'il les a donnés à l'Église. Et c'est là la particularité du ministère. Mais de surcroît au ministère, il y a bien sûr tout un tas d'œuvres dans lesquelles on est impliqué. Que ce soit un département à l'Église, que ce soit une fonction quelconque à l'Église, que ce soit d'évangéliser dans nos quartiers, que ce soit de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de leur témoigner l'amour et la grâce de Christ. Tout cela sont des œuvres auxquelles nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Donc toi, tu auras des comptes à rendre aussi sur ces œuvres. Mais de surcroît à cela, tu dois comprendre que l'œuvre demande du travail et que le travail demande des efforts et que les efforts font en sorte que ton énergie, ta force en est sapée ou en est diminuée. Donc le travail de Dieu, même s'il se fait avec la force de Dieu, même si elle se fait avec l'onction de Dieu, même si elle se fait sous la provision et la bénédiction et la supervision de Dieu, le travail de Dieu va malgré tout demander des efforts. Et il y a des gens qui capitulent face au travail de Dieu lorsqu'il est question de l'effort. Il n'y a aucun travail qui se fait sans effort. Tout travail va te demander du temps, va te demander de l'investissement, que ce soit en temps ou en ressources, en savoir ou quoi que ce soit. Tout travail que tu veux améliorer va nécessiter un apprentissage, va nécessiter des changements, des transformations. Il n'est pas vrai que tu peux travailler sans te fatiguer. Même si cette tâche, tu l'aimes profondément, même si cette tâche est valorisante au plus haut point, il va quand même être requis de toi et de moi une force de travail, une force de labeur, et le travail de Dieu va demander aussi des efforts. Trop de gens vivent dans cette définition fausse, erronée et très rosâtre du service de Dieu qui ne demande rien. On est là en train de sourire constamment et puis on agit comme des robots avec un même rendement constamment. Le travail de Dieu va te demander des efforts. Quel que soit le travail auquel tu es impliqué. Alors, je trouvais important ce matin de démystifier un peu le travail de Dieu et de vous rappeler que ce travail, même s'il est béni, même s'il est demandé par Dieu, même s'il est arrosé de l'onction suprême de l'Esprit Saint, malgré tout, il va demander des efforts, il va demander de la force de ta part. Donc, la question, c'est, es-tu prêt à faire ce travail? Es-tu prêt à mettre les efforts? Es-tu prêt à déployer tes efforts et ta force pour le travail auquel Dieu nous appelle? L'œuvre de chacun. Le terme « chacun » est « castos ». Si on le traduit en français, ça serait l'expression « tous et chacun ». Tous et chacun. Je trouve ça intéressant. Ça veut donc dire que l'œuvre de tous et chacun. Donc, l'œuvre individuelle de nous tous, mais de surcroît à cela, l'œuvre collective de nous tous. Il y a des gens qui travaillent de façon très indépendante, de façon très personnalisée. Et c'est leur œuvre sans que les autres ne soient impliqués dedans. Et je crois que chacun d'entre nous, on a effectivement une part du travail qui correspond à une œuvre très personnelle. Lorsque on est parfois sur une même tâche, plusieurs à y être, on peut s'entremêler les pinceaux, on peut se marcher sur les pieds un peu les uns des autres. Il y a certaines tâches qui demandent effectivement la précision d'un individu qui fait une tâche. Mais au-delà de cette tâche individuelle et personnalisée, on a aussi la tâche de tous. Et cette tâche de tous, c'est le concours de chacun d'entre nous à l'œuvre même de Dieu. Dans l'Église, il y aura effectivement des tâches qui sont individuelles. Lorsque je suis sur la tribune le dimanche, je suis en train de prêcher. On n'est pas 36 à prêcher. Bon, dans le cas qui nous concerne actuellement depuis le début de la pandémie, ben on est deux à prêcher. Donc, le prédicateur et le traducteur. Il faut encore que ces deux personnes soient communément unies et qu'ils travaillent dans le même sens. Et gloire à Dieu, c'est ce qui se passe dimanche après dimanche. Donc, mais c'est quand même l'œuvre individuelle. Lorsqu'on n'a pas de traduction, à ce moment-là, c'est une seule personne qui est en train de travailler. Mais de surcroît à cela, l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de promouvoir le royaume de Dieu, est aussi une œuvre collective. Parfois, vous allez voir un message sur Facebook où je dis urgent besoin de prière et j'énumère quelques cas. Lorsque le pasteur Harley est tombé malade, lorsque le pasteur Juan Carlos est tombé malade, lorsqu'il y a eu telle ou telle situation qui nécessitait de l'intercession et de la prière, à ce moment-là, on a fait un appel à tous. Donc, il y a des tâches qui sont individuelles, qui vont demander des efforts bien individuels, mais il y a des tâches qui sont collectives et qui vont demander des efforts collectifs. Et ce qui est malheureux dans les équipes que nous formons, c'est lorsqu'on se met à travailler tous ensemble et qu'il se passe deux choses. Une discorde parmi les co-ouvriers. Alors à ce moment-là, tout le monde tire de son bord et puis l'œuvre n'avance pas. Ou lorsque certains sont au travail et d'autres semblent tout simplement regarder la parade en se disant « ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas les talents que j'ai. Lorsque vous reviendrez dans mon domaine, à ce moment-là, je collaborerai. D'ici là, je vous regarde. » Je dis parfois, concernant l'Église, si on voit un Kleenex par terre, ça a beau être la responsabilité première du frère Gilles de s'occuper, il le fait admirablement bien et avec beaucoup de joie, et on le salue parce qu'assurément il est connecté ce matin. S'il y a un Kleenex par terre, tu as deux choix. Soit tu ramasses le Kleenex et tu te dis c'est juste normal que je le fasse et tu vas le mettre à la poubelle, ou sinon tu regardes ce Kleenex et tu dis le frère Gilles va passer tout à l'heure, c'est son onction, c'est son travail, c'est son mandat, je ne lui volerai pas son temps, donc je le laisse ramasser. Je pense que c'est inadéquat de faire ainsi. Lorsqu'il y a un besoin qui se présente dans l'Église, je pense qu'il est normal que nous tous, puisque nous aimons l'Église, puisque nous aimons le propriétaire de l'Église, qui est le Seigneur Jésus, et puisque nous aimons nos frères et nos sœurs qui constituent l'Église, il serait tout à fait normal que nous puissions, nous aussi, si on voit un Kleenex par terre, de le ramasser. Et ça fait partie de l'œuvre commune aussi pour nous tous. Troisième terme intéressant ce matin, phaneros, manifester. Les synonymes de phaneros, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des déclinaisons comme épiphanie, donc la manifestation du Messie auprès des rois mages, ou la théophanie, la manifestation de Dieu. Si on parle de phaneros et qu'on cherche des synonymes contemporains aujourd'hui, on va parler de apparent, on va parler de quelque chose qui est évident, quelque chose qui est manifeste, quelque chose qui est connu et quelque chose qui est reconnu. Donc il y a cette idée d'être amené publiquement, d'être amené à la lumière ou d'être amené à la surface, quelque chose qui fait en sorte que c'est rendu visible. Ce qui est intéressant, comme première pensée concernant phaneros, c'est que nos œuvres seront mises en lumière. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et leur travail est apprécié. Je sais qu'il y a un nombre d'entre vous qui me soutenaient constamment dans la prière, mais c'est quelque chose de discret. C'est quelque chose qui n'est pas visé puisqu'il est fait à distance, qu'il est fait dans l'intimité de votre chez vous, de votre maison. Mais je sais que mon ministère est tributaire de ces prières. Ce qui est intéressant, c'est que même si Florent ne voit pas ses prières, Dieu les voit et nous dit qu'à un moment donné, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, l'œuvre cachée, l'œuvre peu visible à laquelle vous êtes attablé, à laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes impliqué, cette œuvre-là va être manifestée, rendue publique. Ça veut donc dire que vos œuvres vont être mises en lumière. Pour les personnes qui ont ce sentiment régulièrement d'être oubliées, d'être négligées, de ne pas être entendues, de ne pas être vues, de ne pas être sues, sachez que Dieu vous voit, que Dieu vous entend, que Dieu prend en note chacune de ses œuvres et que ses œuvres, à un moment donné, seront mises en lumière pour saluer votre service et saluer le temps, les efforts et la qualité de votre œuvre. Donc, n'ayez crainte, même si les hommes ne vous voient pas, et même si Florent, moi-même, je ne saurais vous voir et je ne saurais remarquer l'œuvre à laquelle vous êtes attaché à mon profit et à mon aide en tant que serviteur en priant pour moi. Dieu prend note de chacune de ces intercessions, de chacun de ces moments de prière, et à un moment donné, lorsqu'il sera temps de vous glorifier, Dieu va effectivement vous élever. Alors n'ayez peur, vous ne passez pas inaperçu aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour ne pas voir l'œuvre à laquelle vous êtes impliqué. Dieu n'est pas un homme pour ne pas bénir l'œuvre à laquelle vous êtes impliqué. Même lorsque Job pouvait peut-être essayer de prendre une apparence un peu discrète, Dieu lui-même s'est mis à élever cet homme fidèle qu'il appréciait tellement en disant « As-tu vu mon serviteur Job ?» Donc Dieu va faire idem avec vous, Dieu va faire la même chose avec vous, Dieu va vous élever même si l'œuvre à laquelle vous êtes impliqué est encore cachée et obscure. Donc les œuvres vont être mises en lumière. Manifestées, lorsqu'on parle de phanéros, on parle aussi d'œuvres qui sont reconnues, annotées, enregistrées. On ne travaille pas pour rien, vous ne travaillez pas pour rien. Je disais tout à l'heure que le Seigneur va mettre en lumière vos œuvres, mais ça veut dire aussi qu'il les note. Il les note dans un carnet, il les note dans sa mémoire éternelle. S'il doit vous récompenser pour vos œuvres, ça veut donc dire qu'il les note quelque part. Lorsque nous allons nous présenter devant Christ, chacun d'entre nous allons recevoir la quantité qui nous est due. De couronne, le salut est égal pour tous, mais le nombre de couronnes va dépendre de l'œuvre que nous appliquons pour Dieu, et non pas l'œuvre aux yeux de l'homme, non pas l'œuvre à la reconnaissance humaine, mais l'œuvre selon la pensée de Dieu. Est-ce que Florent a fait ce que je voulais qu'il fasse de sa vie? Est-ce que, ma sœur, tu auras fait ce que Dieu voulait que tu fasses de ta vie? C'est dans cette obéissance du service, dans cette obéissance face à l'œuvre de Dieu, que les couronnes vont être accordées. Mon frère, quand tu vas te présenter devant Dieu, pourra-t-il effectivement te couronner, répandre sur toi ses couronnes pour le service fidèle, le service maintenu, soutenu, que tu auras fourni tout au long de ton existence. Donc Dieu reconnaît ton œuvre, Dieu annote ton œuvre et Dieu enregistre ton œuvre. Lorsqu'on parle de phanéros, et ce sera notre dernier terme ce matin, quand on parle de manifester, on parle aussi d'évaluer et de juger. Ça veut donc dire que Dieu, oui, prends note. Dieu tient en mémoire les œuvres que tu fais, mais la qualité du service est aussi importante. Cette phrase qu'on ne cesse de répéter lorsque nous nous présenterons devant Dieu, la phrase qu'on veut entendre, c'est « bon et fidèle serviteur ». Lorsqu'on parle de « bon » et de « fidèle serviteur », c'est donc un jugement qu'on apporte par rapport à un serviteur et à son service. A-t-il été fidèle? A-t-il été constant dans le temps? A-t-il été bon? Donc, quelle a été la qualité du service qui a été offert? Tout au long de cette semaine, on a parlé de courir en vue d'une qualité de service optimale. On a parlé de mener une vie de qualité supérieure. Dieu va juger tout cela. Dieu va effectivement dénoter chacune des œuvres et dénoter l'œuvre globale que tu auras faite. Dieu va dénoter les œuvres individuelles, ta participation à l'œuvre collective. Et il va dire effectivement, voici, cet homme a été fidèle, cette femme a été fidèle. Ou dans cette œuvre-là, mon fils, non, tu n'as pas été fidèle. Et pour cette œuvre-là, je ne peux pas te donner la couronne que tu espérerais. La fin du verset 15 nous dit clairement, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc une fois qu'elle a été éprouvée par le feu, si elle ne subsiste pas, cette personne perdra sa récompense, mais il sera sauvé. Il sera sauvé, mais il aura perdu sa récompense. Alors plusieurs d'entre nous, on pourrait se retrouver là-haut, au ciel, oui, être sauvé, mais avoir très peu de couronne parce que on n'a pas servi Dieu dans les normes qui nous le demandaient. On n'a pas cherché la qualité. On n'a pas cherché la qualité dans le service, dans la pérennité du service, dans le temps, dans l'effort. On a donné à Dieu quelque chose qui s'apparentait à du bois, qui ne nous coûtait pas cher. On a donné à Dieu quelque chose qui s'apparentait au foin, quelque chose que nous n'avions pas besoin. Alors on lui a dit, tu peux le prendre. Ou sinon, on lui a donné quelque chose comme du chaume en se disant, j'ai déjà pris tout ce qui était bon pour moi, tu peux prendre le reste si ça t'intéresse. Est-ce que c'est ça qu'on a donné à Dieu? Ou est-ce qu'on aura donné à Dieu de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du marbre, du granit, pour que l'œuvre de Dieu soit solide et qu'elle continue? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler que notre œuvre va être amenée en jugement. Oui, notre œuvre va être amenée à la lumière, mais ça veut dire que notre œuvre, tant la partie qui est bonne que la partie qui est moins bonne, va être amenée à la lumière. Et face à la clarté et à la lumière du Saint-Esprit par rapport à nos œuvres, nul d'entre nous ne pourra contester que le jugement apporté à ces œuvres aura été juste, aura été équitable envers chacun d'entre nous. Donc chacune de nos œuvres vont être amenées à la lumière. Chacune de nos œuvres ne tombe pas dans l'oubli, sont notées. Celles qu'on fait, comme celles qu'on ne fait pas, sont notées. Celles qu'on fait bien, comme celles qu'on fait moins bien, sont notées. Celles qu'on fait avec tous nos efforts, avec toute la qualité de notre service, ou celles qu'on fait aussi avec l'attitude « vaille que vaille, débrouille-toi avec cela, Seigneur », ces deux catégories sont notées. Et chacun d'entre nous, à un moment donné, on va se présenter devant Dieu et on sera amené en jugement par rapport à la qualité de notre service. Et je prie mon frère, je prie ma sœur, qu'alors qu'on conclut les enseignements pour cette semaine, tu puisses être challengé, que tu puisses être défié par la parole de Dieu de cette semaine, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision de servir Dieu avec qualité, avec ténacité, en collaboration avec tes frères et tes sœurs, comprenant que c'est non seulement l'œuvre individuelle, mais aussi ta participation à l'œuvre collective qui sera jugée, annotée, récompensée ou non. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va simplement prier que Dieu nous parle tous et chacun et mette sa lumière sur nous. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Je prie, Seigneur, que tu puisses effectivement éclairer mon frère et ma sœur par rapport à ces paroles que nous venons de partager. Assurément, Seigneur, chacun d'entre nous, on a des dons particuliers, des dons précisément accordés pour une œuvre très précise, individuelle. mais aussi, Seigneur, pour une œuvre collective. Et entre les deux, Seigneur, on a non seulement des fonctions très sporadiques, très ponctuelles, mais on a aussi des fonctions ou une œuvre plus générale dans laquelle chacune de ces petites actions s'imbrique. Alors, Seigneur, nous voulons être jugés fidèles et bons dans notre service. Et quand on pense à ce que toi, tu as donné pour nous, on comprend aussi qu'il serait foncièrement indécent de ne pas t'accorder la qualité de notre travail, la qualité de nos efforts, de ne pas te donner un effort soutenu, de ne pas te donner un engagement soutenu. Alors je prie, Seigneur, que tu m'éclaires dans ces parties de mon œuvre, dans ces parties de mon mandat, dans ces parties de mon appel où je ne suis pas à la hauteur, où tu veux encore davantage de moi. Je prie qu'il en soit de même pour ma sœur et mon frère, afin, Seigneur, qu'on ne se berce pas d'illusions en se trompant soi-même par des faux raisonnements, mais que nous ayons ton sage, ton saint et ton excellent regard sur notre vie et qu'on entende ta voix qui corrige, qui sanctionne, qui demande des changements et des transformations, afin, Seigneur, que nous puissions effectivement obtempérer et obéir à ta volonté. Alors je prie ta bénédiction sur ma sœur, je prie ta bénédiction sur mon frère. Éclaire-les aujourd'hui, arrose cette parole par l'onction de ton esprit. Nous interdisons à l'ennemi de venir voler quoi que ce soit de ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'assurément, Seigneur, la qualité du service de demain passe par l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui, par notre compréhension et par la construction que nous faisons sur cet enseignement qui nous a été donné aujourd'hui. Alors bénis ma sœur et bénis mon frère, et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, c'était l'enseignement pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 8h30, encore une fois, pour notre temps. Demain, c'est vendredi, donc c'est journée de jeûne et de prière. Tous ceux qui peuvent et tous ceux qui le veulent, on vous invite à être dans le jeûne avec deux rencontres. Donc, à 8h30 demain matin, comme d'habitude, et puis à 19h pour notre temps d'intercession demain soir. Alors, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Travaillez bien pour Dieu. Travaillez fortement pour Dieu. Servez-le avec tout ce que vous avez. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Et vous êtes très, très, très capable de faire l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.